OVNI, phénomènes paranormaux, sociétés secrètes, mystères des pyramides, complots d'État, Big Brother, Illuminati. Tous les soirs, témoignages et révélations. Entre 21h et minuit sur BTLV, Bob vous dit toute la vérité sur ce que l'on nous cache depuis trop longtemps.
Grand Beaufort, voilà comment certaines personnes me voient et ils ont raison. Dans tous les cas, salut à tous, je suis très heureux de vous retrouver. Comme chaque soir, il va se dire ici ce qui ne se dit pas ailleurs avec autant de liberté, sans aucune censure et tout cela, je le dois grâce à vos souscriptions, à vos abonnements. Sans pub, nous avons une totale liberté rédactionnelle. Voilà pourquoi, si vous m'écoutez une fois, vous m'écouterez 1000 fois.
Pour souscrire à l'offre 1 an BTLV, et avoir un accès illimité à toutes les émissions et leurs podcasts, cliquez sur l'onglet Abou Web Radio sur bob-toutelavérité.fr.
Bonsoir tout le monde, merci d'écouter BTLV et je ne sais pas si vous le savez, mais il y a en ce moment le pack Noël qui vous est offert avec tout abonnement à 1 an. En clair, vous repartez avec les vidéos des rencontres du mystère et de l'inexpliqué, mais aussi avec l'enquête paranormale que nous avons réalisée au château de Fougeray, la plus impressionnante du monde, près de 100 témoins. Oui. Eh oui, c'était le 6 septembre dernier, je peux vous dire que on a frissonné. Donc tout ça vous est offert avec l'abonnement à 1 an parce que vous êtes peut-être abonné à 3 mois, à 6 mois, ou alors vous nous écoutez parce que vous avez acheté le podcast de l'émission, mais sachez que tout abonnement à 1 an vous donne un accès illimité à toutes les émissions, saison 1, saison 2, à toute la Web TV et bien sûr à ce pack Noël.
Bob vous dit toute la vérité, 21h minuit sur BTLV.
Nous allons retrouver l'un de nos intervenants phares. Pour cela, direction le Grand Nord canadien pour y retrouver l'homme de Lorignal.
Le mystère et l'inexpliqué sont ses terrains de jeu depuis 40 ans. Tous les mois, Richard Glenn est sur BTLV.
Bonsoir Richard.
Ben bonjour, bonsoir Bob. Ici on est le matin, chez vous vous êtes le soir. Oui. Les choses se font comme ça sur la même planète.
Oui, c'est ça.
Oui, le Père Noël va encore passer dans mon driveway pour ramasser la neige. J'ai vu que tu l'avais attrapé au passage.
Ben oui.
Père Noël un peu spécial, n'est-ce pas, oui.
Ah ouais, mais j'avais jamais vu les gambettes du Père Noël, moi, Richard, donc voilà.
Et le même jour, lors de la tempête, il y avait 11 maires de villes françaises qui étaient en délégation au Québec
et
qui ont été pris dans la tempête par surprise. Ils ont passé une partie de la nuit dans l'autocar parce que vraiment une tempête. Comme on en a 3-4 au cours de l'hiver. Et c'est commencé ici.
Eh ouais.
Je sais pas si chez vous, est-ce que c'est commencé l'hiver?
Ah non, ouais, non. Ben en fait, nous, tu sais, le temps, il est déréglé depuis quelques années. C'est-à-dire que t'as une semaine où il fait moins 2, puis t'as une semaine où il fait 14, 15. Et puis ça n'arrête pas. C'est un peu fluctuant, c'est pas terrible. Donc, je fais quand même du feu dans la cheminée, hein, tu vois, je peux dire. Mais c'est juste pour le plaisir, je dirais.
Ben, écoute, on parle du Père Noël, on n'est pas loin du phénomène extraterrestre. On dit que le Père Noël vient du pôle Nord.
Ben oui.
Il vient récompenser les enfants qui ont été gentils et punir les enfants méchants. Il leur met un morceau de charbon dans leur bas, à côté du foyer dont tu parlais. Et il est entouré de petits hommes verts qu'on appelle les lutins.
Oui.
Et voilà, il vient par la voie des airs. Et puis on dirait qu'il est vraiment dans la physique quantique.
Oui.
Parce que effectivement, à minuit sonnant, dans toutes les villes du monde, partout, dans toutes les chaumières, il passe par la cheminée, puis il descend, puis il va porter des cadeaux au pied de l'arbre. L'arbre de Noël qui représente bien l'arbre du paradis terrestre qu'on avait en mémoire, avec les boules de Noël qui présentent les pommes, et puis les serpents qui sont les guirlandes qu'on a à l'intérieur de l'arbre de Noël. Et tout ça, c'est une belle mythologie. On peut se demander si, finalement, il y a un fond de vérité derrière tout ça.
On peut.
Mais, ben oui, mais il y a une grosse différence entre le Père Noël et le phénomène OVNI, parce que je pense que jamais il y a eu des commissions d'enquête gouvernementales pour essayer d'étudier le phénomène Père Noël.
Ah non, je crois pas.
Non. Parce que effectivement, on sait bien que c'est un mythe, c'est une histoire inventée. Mais pourquoi alors les gouvernements, et puis il y en a plusieurs, dans plusieurs pays du monde et depuis 60 ans, font des commissions d'enquête une après l'autre pour étudier le phénomène OVNI?
Parce qu'il touche peut-être la défense. Hein. Il y a un phénomène qui est plutôt joyeux, qui touche les enfants, qui est celui du Père Noël. Et puis il y a un phénomène qui est peut-être un peu inquiétant pour les gouvernements. C'est l'ufologie, mon Richard.
Oui, mais alors c'est qu'il y a une grosse différence dans l'impact de la réalité du phénomène. On sait bien que le Père Noël, lui aussi, il passe outre-frontière sans passeport, ouais. Il descend dans toutes les maisons, c'est vraiment une intrusion de domicile, c'est interdit par les lois de tous les pays. Pourtant, mm-hmm. le Père Noël se permet de le faire, et puis même, on dirait que si on écoute les témoignages de certains enfants, ils sont certains que le Père Noël est passé dans leur maison. Ouais. La preuve, ils ont eu des cadeaux le lendemain matin, le petit verre de lait est descendu, les biscuits qui avaient été placés pour lui ont été mangés. Il y a des preuves collatérales, avec des témoins, évidemment, mineurs, en général, il faut bien croire. Mais l'attitude, donc, des autorités face au phénomène OVNI nous prouve que c'est loin d'être un mythe, une légende, une histoire inventée. Le phénomène OVNI dérange parce qu'il y a des preuves qui ne sont pas seulement collatérales. Il y a des preuves de, tu sais, le fameux passage des OVNI en Belgique, là.
Oui.
Ça a été suivi par les avions de chasse, les Lock-On qui ont fait des pourchasses aux ovnis qui passaient en triangulaire. Alors, derrière tout ça, Bob, si on commence à parler du phénomène ovni, puis aujourd'hui, je vous propose le titre méta-ufologie, comme on avait fait méta-psychologie il y a deux mois. Mm-hmm. La méta, ça vient de, au-delà de l'ufologie. Moi, je considère souvent que les ufologues, c'est comme des chasses au trésor, des Boy Scouts, là, qui cherchent les pistes, les traces, les indices pour trouver peut-être un jour le lieu, l'endroit où ils pourraient voir des extraterrestres atterrir devant eux. Mais il y a l'autre côté, dont toi d'ailleurs, tu as reçu une femme qui se dit être une extraterrestre dans un corps très joli de femme humaine. Hein? Ben oui, Minanda.
Oui.
Ah oui, elle fait fantasmer beaucoup de monde.
Ben oui. Et tu sais que Minanda sera l'affiche des prochaines rencontres du mystère et de l'inexpliqué. Hein, voilà. Donc elle a donné son accord.
Du mois de juin prochain?
Exactement.
Ah, excellent. Aux États-Unis, ils en ont eu une qui était du même style, très jolie, et à un moment donné, des années passant, elle flétrissait légèrement, et à un moment donné, boum, elle est disparue, on n'a plus jamais entendu parler.
Ouais.
Elle avait une mission en venant de Vénus avec des parents qu'elle avait incorporé un enfant qui était... Ah, c'est toute une histoire, monsieur. Le phénomène OVNI, ça ouvre la porte à peu près tous les fantasmes possibles, imaginables et inimaginables. Que ce soit celui qui veut dominer en disant « j'ai été rencontré par des extraterrestres et j'ai une mission pour sauver l'humanité », tu sais.
Oui.
On en connaît un Français en particulier qui s'appelle... il s'appelait Claude Vorillon, il a changé de nom, lui.
Oui, Raël.
Ben voilà, c'est ça. Alors, on voit que le phénomène OVNI, s'il y a quelque chose de sérieux, c'est vraiment très dérangeant. Et même les autorités vont préférer nous laisser nous amuser avec des choses qui ne tiennent pas debout, se disant, moins on réveillera le loup, moins on risque de créer la tempête sur la planète. Moi, je reviens avec l'histoire du petit chaperon rouge. Tu connais l'histoire du petit chaperon
bien
rouge,
sûr,
le
oui,
conte
bien
de
sûr.
Perrault?
Oui, bien sûr.
Ben oui, hein? Bon, alors, le conte de Perrault, qui a été écrit en 1697, nous raconte l'histoire on va le faire en deux parallèles en même temps dans l'histoire. Okay? Ouais. Alors, la société d'aujourd'hui qui est jeune, qui est innocente, qui part et qui quitte les religions, la maman d'autrefois, la tradition d'autrefois, et s'en va sur un chemin et rencontre un bon jour un loup. Le loup qui se présente gentil, qui lui dit « Où vas-tu, petite fille? » Ben, je m'en vais voir Mère Grand lui apporter des présents. OK, alors regarde, il y a le chemin, là, tu peux aller par là, ça va aller plus vite, ça va être plus court. Prends la voie de la science, tu vas découvrir les choses beaucoup plus rapidement. Vas-y avec la science dans les laboratoires, développe ta technologie, développe la science sans conscience et la perte de l'être humain, disait-on.
Bien sûr.
Alors, le petit chaperon rouge, la société s'en va en science, laisse tomber les préceptes que sa mère lui avait bien enseignés. Attention, ne parle pas à l'étranger, va par ce chemin-là, quitte pas le bon chemin. On va avoir un raccourci si on s'en va par là. On va atteindre l'immortalité même, dit-on, là, avec les OGM puis la manipulation génétique. Alors oui, il s'en va par là. Et là, pendant ce temps-là, le loup, lui, on sait l'histoire, hein, il se rend à la maison de la mère Grand.
Ouais.
Toc, 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 tire la bobinette et la chevillette chère là. Qui est un mot-clé, qui est une formule magique, si on veut, que la franc-maçonnerie connaît très bien sous le terme de vitriol.
D'accord.
Oui, alors, on en reparlera. D'ailleurs, Bob, tu me permets de dire que les gens qui nous écoutent présentement pourront retrouver sur mon site, et toi, si tu veux, tu me mets en lien, le complément surprenant.
Ah, bien sûr, oui.
Ben, ça suit toujours notre Gilles Surprenant, qui s'appelle vraiment Gilles Surprenant.
Ben oui.
D'ailleurs, qui a un frère qui enseigne à l'Université de Bordeaux en politique. Et donc, avec le complément Surprenant, ce que j'apporte ici rapidement, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps ensemble, ça leur permet au public d'aller voir des détails, des confirmations de tout ce que j'apporte ici comme information.
Mm-hmm.
Donc, avec le fameux vitriol, là, toc, 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 tire la bobinette, la chevillette, chère roi. Il rentre. Il va sauter sur la mère Grand, la dévore, et prend la place de la mère Grand dans le lit. Le petit chaperon rouge arrivant, toc, 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 sur la bobinette et la chevillette, chère roi. Il va changer de voix pour avoir la voix de mère Grand. Et là, il va rentrer. Et on connaît l'histoire. Alors, pourquoi t'as de si grands yeux? Pourquoi t'as de si grandes oreilles? Jusqu'à ce que ça arrive avec pourquoi t'as de si grandes dents.
Ouais.
Je connais l'histoire. Hein?
Ouais.
Et c'est à ce moment-là que le loup saute sur le chaperon rouge et la dévore. Et là, ne revenant pas à la maison, la mère s'inquiète et fait appel au bûcheron, qui est son père, qui est son mari, qui est le père du petit chaperon rouge. Et le bûcheron arrive à la maison de la mère Grand. Toc, 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 lui, ça le dérange pas, il rentre. Hein? Bon. Et puis là, il entend, dans le ventre de la mère Grand, le petit chaperon rouge qui crie de l'intérieur de la terre, « Papa, papa, papa! » Et il ouvre le ventre du chaperon du loup, et il découvre la mère Grand encore vivante et le petit chaperon rouge encore vivant d'un seul morceau. Là.
Mm-hmm.
Le phénomène extraterrestre est très semblable au loup qui a volé la place de la mère Grand et qui, un jour, dérobe par abduction, qu'on appelle les enlèvements des êtres humains, les conduit on ne sait où. Réellement, je pense qu'il faut peut-être regarder vers l'intérieur de la Terre. On sait que les nazis, avec Hitler et toute sa bande, étaient en contact avec les fameuses sociétés de Thulé. Puis on sait qu'eux-mêmes avaient développé ce qu'on appellera de l'antigravitation et permettaient même à des véhicules de se déplacer à de très hautes vitesses. Après la guerre, il y a eu le projet Paperclips, où on a partagé d'un côté comme de l'autre de l'océan là, les savants allemands, soit en Russie, soit aux États-Unis. Et on a envoyé Richard Byrd aller enquêter sur ce qui se passait en Antarctique.
Mm-hmm.
Et Richard Byrd, qui est un amiral, donc toute la tête sur ses épaules, un gars qui est solide, qui est capable, il était avec tout un attirail militaire, là, le porte-avions, les sous-marins, des avions en quantité, etc. Il a fait à peu près 15 jours et il est reparti à toute vitesse, les jambes à son cou, parce qu'il a été pourchassé par des vaisseaux, des véhicules qui se déplacent à très, très haute vitesse. Et il a déclaré après, la prochaine guerre, s'il y en a une, elle va se faire d'un pôle à l'autre à des vitesses incroyables par des êtres ou face à des êtres qui possèdent ces véhicules. On sait que les Allemands avaient une arme secrète. On connaît la société du Vril. Et la société du Vril permettait à des gens qui étaient psychiques, donc Maria Hartich, entre autres, d'entrer en contact avec des êtres par le psychique. Et ces êtres-là donnaient de l'information par écriture automatique, par vision, par séance de spiritisme. Derrière, on l'a vu dans Le Matin des magiciens de Paul Zébergier, il y a quelque chose derrière tout ça. Le Hitler, là, il y a eu de l'aide pour faire avancer la science alors qu'on n'était pas encore en guerre, mais lui, il était sur plusieurs pistes en même temps. On dit même que la première bombe atomique était toute prête par les nazis.
D'accord.
Bon, alors, le phénomène extraterrestre, je vais te dire, tu as participé au congrès que j'ai organisé au mois de mai dernier, UFO 401. J'avais plusieurs invités, dont un qui est un des leaders de l'ufologie au Canada. C'est lui qui fait qui ramasse les témoignages à travers le Canada de tous les organismes ufologiques du Canada pour dévoiler vers le début du mois de février-mars la quantité d'observations rapportées dans les postes de police, etc., dans les mouvements ufologiques. Chris Rutkowski. Et puis, je l'avais invité, j'ai parlé avec lui, on a eu de longues conversations très agréables, et il voulait venir comme un des conférenciers sur le congrès UFO 401. Quand je lui ai dit, j'aurais une question qui tue, c'est en anglais, c'est la killing question, et il me demande, il dit, dites-moi là tout de suite, parce que il dit, j'aime mieux pas être pris par surprise, puis je pourrais vous préparer peut-être des meilleurs éléments à ma réponse.
Ouais.
OK, alors, Chris, je vais vous la dire tout de suite, la question, mais attention, là. C'est dérangeant. tous les ufologues du monde parlent d'extraterrestres qui viennent par des voyages dans l'univers à la vitesse de la lumière, au-delà de la vitesse de la lumière, des trous de verre, des trous noirs. Bon, ben, attends une minute. Est-ce que il serait pas possible que ces êtres-là viennent simplement de l'intérieur de la Terre? On entend parler de la Terre creuse dans toutes sortes de traditions. Mm-hmm. Il faut pas oublier que Jules Verne, qui a écrit beaucoup de livres de fiction, ben la plupart se sont tous réalisés. Hein? Le tour du monde en 80 jours, 20 milieux sous les mers avec les sous-marins, ça se fait. Et il y en a un, le voyage à la Lune aussi. Il faisait même partie ses héros de Floride. Exactement ce qui s'est produit avec la NASA là, en Floride, mm-hmm. pour aller sur la Lune. Mais son fameux livre, Le voyage au centre de la Terre, mm-hmm. ça n'a toujours pas encore été prouvé. Alors, on voit bien qu'il y a quelque chose qui est caché d'une certaine façon. Le vitriol, je reviens encore avec la fameuse formule vitriol. Tu sais ce que ça veut dire, la fameuse formule vitriol, V-I-T-R-I-O-L?
Pas du tout, Richard.
Visita interiore terrarum rectificando Ivanias occultum lapidum.
C'est pour ça que les francs-maçons le mettent dans leur loge.
Exactement. Visite l'intérieur de la Terre. Mm. Et en rectifiant ton regard, tu découvriras la pierre des sages. Mm-hmm. Occultum caché, la pierre cachée des sages. Mm-hmm. Alors, visite l'intérieur de la Terre. Et oui, il y a beaucoup de gens qui sont très informés qu'à l'intérieur de la Terre, écoute, ça remonte à des centaines de milliers d'années. C'est pas il y a 5000 ans ou il y a 10 000 ans ou il y a 30 000 ans. J'ai entendu, j'écoute très souvent, régulièrement, les invités que ce soit, et en particulier ceux qui vont traiter des découvertes archéologiques.
Ouais. Bon.
Et on se dit, ouais, le Sphinx, c'est pas 3000 ans avant Jésus-Christ. Là.
Ah,
ça commence
sûr.
À parler de 10 puis 15 000 ans avant Jésus-Christ. Mm. D'autres vont dire peut-être 30 000 ans avant Jésus-Christ. Bon, alors dans les traditions, Immanuel Velikovsky, lui qui a répertorié toutes les traditions de la planète, hein, il a passé des années à fouiller dans les textes des traditions de tous les peuples, primitifs et moins, pour se rendre compte que tous ont été visités par des êtres de l'espace qu'on va appeler les Elohim, les anges, les dévas, etc. Mm. Et d'autres qui ont vécu le déluge, tous à peu près à la même époque. Alors, il y a quelque chose qui est su dans la tradition très ancienne. On parle, nous, dans notre tradition, des anges déchus.
Oui.
Chassés où? Dans les entrailles de la Terre.
Ah oui?
Ah oui. Nous-mêmes, ici, actuellement, sur Terre, on se rend compte que notre société... Les autorités semblent se foutre royalement de la crise économique actuelle parce qu'eux sont à l'abri et se mettent même à l'abri physiquement en allant dans des souterrains, en se préparant des abris. On disait autrefois des abris nucléaires dans les années 60. Mm. C'est un peu une farce parce que s'il y avait une bombe nucléaire qui saute pas loin, tu cuirais comme un bon petit pain dans un four, là, dans un abri nucléaire. Mais ils ont des abris considérable, immense. On sait même qu'il y a des tunnels, il y a des corridors souterrains qui permettent de relier des grandes villes, en tout cas aux États-Unis, et on sait même au Canada ici, je ne sais pas en Europe, mais moi j'ai eu beaucoup de témoignages de gens qui disent ils entendaient la nuit, quand ils étaient couchés dans leur lit, principalement ceux qui couchent dans des sous-sols de maison, mm-hmm. ils entendaient des bruits sous la terre. Là, il y a des choses qui se passaient. Là. Bon. Je ne donnerai pas de précision parce que je me suis attiré des gros problèmes dans mes émissions autrefois en dévoilant des précisions sur ces sujets-là. Et il faut dire que notre plus gros aéroport ici au Canada s'appelle Mirabel.
Oui.
Il a été construit en plein champ. Il n'a à peu près jamais servi comme piste d'atterrissage pour les avions internationaux. Ça a servi pour le fret, là, puis ils sont en train de le démonter. Mm. L'aérogare est en train d'être complètement démembré, démantibulé. Mais Mirabel, quand on regarde dans un dictionnaire, c'est une abbaye souterraine.
Ah.
Et quand on a fait construire ça, on a chassé des dizaines de kilomètres autour de la piste de Mirabel pour qu'il n'y ait pas de curieux. Et dans un endroit complètement désert, et on a creusé, et j'ai eu des enquêteurs qui m'ont rapporté beaucoup d'informations concernant cette installation, et il y a eu beaucoup de pilotes qui nous ont rapporté des témoignages précis, avoir vu sur les pistes de Mirabel des ovnis. Ce que je veux dire, c'est des vaisseaux cylindres ronds, comme des assiettes une sur l'autre, là, renversées, métalliques, là, gris métalliques, qui étaient sur les pistes. À un moment donné, elles deviennent comme très lumineuses, puis tout d'un coup, whoop, ça vient de partir.
Carrément.
Il y a une technologie qui existe en parallèle à notre société qui permet à ces sociétés de gens bien nantis, puissants, de pouvoir contrôler cette connaissance-là, qui n'est pas à la portée de tous et qui fait que les autorités qu'on élit tous les 4 ans sont même à peine... Il y en a qui ne sont pas informés, mais pas du tout, du tout. On continue à jouer le jeu de... On ridiculise dans un premier temps. Hein. Ah, c'est des fous, c'est des folies, c'est pas sérieux. Pas de temps avec ça. Deuxième, quand on s'aperçoit que les informations tombent et sont sérieuses, hein. Alors là, on commence à dire, wow, là, c'est dangereux, là. Ça, c'est des fous, là. Il faut faire attention, il faut les enfermer. Puis un jour, quand on verra que la chose est vraie, on dira, bon, oui, on le savait, c'est bien évident. Ça, c'est la méthode de noyer le poisson, comme on dit.
Ouais.
Aujourd'hui même, Bob, on est à la veille de Noël, mais on est le 14 décembre, je dis malheureusement la date de l'enregistrement de notre entrevue, Bob, parce que c'est très important de réaliser qu'il vient d'y avoir un témoignage, qui vient de tomber sur les services de presse à travers le monde. Mathilda O'Donnell McElroy, la connais-tu?
Non.
Bon. Elle a 83 ans, puis elle est décédée en 2007.
Mais c'est pour ça que je la connais pas, Richard. Mettez-moi des jeunes, moi. Je veux que des jeunes, moi.
Ben, je sais bien. Alors, quand elle était jeune, à l'âge de 20 ans, elle travaillait à Roswell. Ça te dit quelque chose?
Ah oui, oui, complètement. Oui, ça, c'est sûr.
Bon. Alors, elle était dans le 509e escadron de bombardiers à Roswell en 1947.
Ah oui.
Et elle était celle qui a été amenée à étudier le cas des êtres qu'ils avaient récupérés du crash de Roswell, dont plusieurs étaient morts sur le crash. Premièrement, l'histoire que j'ai toujours rapportée, l'ayant su de bonne main, il y avait 2 ovnis qui circulaient à très haute vitesse parce que c'était la région où on faisait les essais de nucléaires et les bombardiers qui étaient là, à Roswell précisément, c'était des bombardiers qui portaient des ogives nucléaires.
Ouais.
Alors, les extraterrestres qui avaient été attirés par l'utilisation pour les premières fois de bombes nucléaires dans les déserts du Nevada s'étaient rendus pour voir qu'est-ce qui se passait là sur la Terre. Peut-être que ces ovnis-là ne venaient pas des confins de l'univers. Je reviens encore avec la théorie de la Terre creuse. Ouais. Et la fameuse Kelling Question que j'avais lancée à notre ami Chris Rutkowski, c'était « Monsieur Rutkowski, je vais demander aux ufologues qui seront sur place s'ils n'oublient pas un élément extrêmement important dont presque tous les ufologues oublient, passent à côté. Une civilisation très, très ancienne, très, très ancienne, 300 000 ans, 50 000 ans, se serait fait des abris souterrains, voyant venir des catastrophes, style astéroïdes qui tombent sur la surface. On ne vit pas, nous, sur le toit de la maison. On vit à l'intérieur de nos maisons.
Mmh.
On est déjà à l'abri de la pluie puis des intempéries, mais quand il y a des grosses catastrophes qui peuvent arriver sur une planète, c'est tout à fait sensé et logique quand on en est conscient de mettre vraiment à l'abri. Pour être vraiment à l'abri, c'est pas dans une maison. Là.
Mais Richard, je te coupe un instant. On évoque beaucoup ici la Terre creuse avec ses habitants, etc. Est-ce que physiologiquement, tu penses qu'un homme pourrait vivre à l'intérieur de la Terre? On a besoin du soleil pour la vitamine, on a besoin de se nourrir. Est-ce que tu penses qu'à l'intérieur de notre Terre, certaines personnes pourraient vivre?
Moi, j'ai reçu Jacques Fortier, qui est du Québec, et d'ailleurs, il y a un magazine important qui a publié une série d'articles sur les travaux de Jacques Fortier, et qui nous montre qu'à l'intérieur de la fameuse Terre creuse, dont on nous fait croire qu'il y a un noyau de fer en fusion, oui, mais il y a aussi cette fameuse section plus profonde où à l'intérieur il y a un résidu de soleil. Autrement dit, une planète, c'est un soleil qui s'est résorbé lentement en produisant, tu sais qu'un soleil émet continuellement des atomes qui vont se répandre dans l'univers, et quand un soleil éclate, qu'on appelle une nova ou une supernova, toutes les particules atomiques sont répandues dans l'univers, c'est des atomes, des éléments. Alors, on va retrouver non seulement de l'oxygène, de l'hydrogène, ça sert actuellement à alimenter le soleil pour qu'il reste en feu, mais il va émettre des atomes lourds, des atomes qui vont se répandre. Mais si on ne connaît pas encore le mécanisme de la résorption d'un soleil qui va se résorber en produisant des atomes lourds qui vont créer la couche autour de ce soleil-là, et on a un soleil qu'on appelle résiduel à l'intérieur de la Terre, qui émet beaucoup moins de lumière que le soleil qu'on a au ciel là actuellement, mais qui émet, je dirais peut-être 5 fois à peu près 5 fois plus de lumière qu'une pleine lune très grande. Ça donne plus de lumière. As-tu remarqué que les petits hommes qu'on appelle les petits gris, hein?
Ouais.
As-tu remarqué qu'ils ont des très grands yeux?
Oui, c'est vrai.
Bon, parce qu'ils vivent dans un endroit clos où il y a moins de luminosité, leurs yeux peuvent devenir plus grands, un peu comme les hiboux ou des grands yeux aussi, parce qu'ils vivent la nuit, ils circulent la nuit. Eux, vivant dans des endroits où il y a moins de lumière, je te rappelle encore, la machine a voyagé dans le temps. Tu te souviens, les Morlocks puis les Élois?
Bien sûr.
Bon, ils se retrouvent dans le futur à être où? Dans le monde intérieur de la Terre, sa machine a voyagé dans le temps, elle s'est retrouvée là, et puis il est attaqué par des Morlocks, des êtres qui ont des grands yeux, et puis qui sont évidemment pas très... ils n'aiment pas tellement les humains qui sont en surface. Alors, on est pris avec une drôle d'histoire, là. Le petit chaperon rouge, là, quand le bûcheron vient y ouvrir le ventre, là, il sort le chaperon rouge et la mère grand en un seul morceau. Pourquoi? Parce qu'ils sont emmenés à l'intérieur de la Terre et c'est pas dans les confins de l'univers que la chose se passe. Et c'est plus simple qu'on pourrait croire. De l'intérieur de la Terre, ils observent tout ce qui se passe sur la surface. C'est du jour où on commence à faire sauter des bombes atomiques, qu'on appelle d'ailleurs des explosions souterraines. Bon, ça fracture l'écorce terrestre. C'est sur leur toit, ça, là. Ils n'aiment pas tellement ça, là, de se faire déranger de cette façon-là. Et ça provoque, évidemment, parce qu'entre les couches froides, qu'on pourrait dire, de l'écorce terrestre de surface, et les couches froides de l'intérieur de la Terre, parce qu'on marche, si on veut, on se marche sur les pieds. Nous, on est au-dessus, puis eux marchent la tête en bas, puis les pieds sur... parce que la force d'attraction de l'écorce terrestre pour les personnages, les êtres, sont tellement minuscules, là, c'est plus petit qu'une puce. Bon.
Donc tu veux dire qu'ils sont à l'envers, en fait, c'est ça, par rapport à nous?
Ils sont à l'envers, exactement.
D'accord.
Si tu te souviens encore d'un autre conte, le conte de Alice au Pays des Merveilles.
Bien sûr, hein.
Elle suit le lapin qui porte une montre, hein, pour dire le temps, il court après le temps. Et là, c'est une question de temps dans Alice au Pays des Merveilles avec le lapin, puis la fin des temps, c'est précieux pour lui de conserver la notion du temps avec sa montre. Elle le suit dans le rabbit hole, là, le trou de lapin, là, le terrier qu'on appelle
ça. Oui, c'est ça.
Bon, et là, floum, elle tombe. Et à un moment donné, elle bascule.
Ouais.
Et elle arrive en bas. Alors, pourquoi qu'elle a basculé? Parce qu'effectivement, la gravitation s'en va dans une direction, mais à un moment donné, tu as dépassé le milieu de la... Ce milieu-là, entre la croûte froide de surface et la croûte froide de l'intérieur de la Terre, il y a une zone, les plaques tectoniques, ça existe, là. Ça glisse, ça. Mais ça glisse, et ça glisse sur les croûtes froides de l'intérieur de la Terre, et la friction entre les deux couches de l'écorce terrestre, celle de l'extérieur et celle de l'intérieur de la Terre creuse, ces deux couches-là qui se frictionnent créent évidemment une zone de friction qui donne effondre. Oui, je pense que j'ai malheureusement un appel sur l'autre ligne qu'on va oublier, mais ça fait de la lave.
D'accord.
Et cette lave-là va sortir par les trous du dessus ou d'en dedans qu'on appelle des volcans.
D'accord.
Et quand on a fait des fractures par les bombes atomiques qu'on a fait sauter dans l'écorce terrestre. À Mururoa, là, chez vous, les Français, vous avez fait sauter des bombes à Mururoa. C'était une bombe, d'ailleurs, qui était, je pense, trois fois plus puissante que ce que tous les savants avaient prévu. Et tous les observateurs scientifiques et militaires qui étaient là, ils ont tous passé. Ça a été un scandale, ça a été étouffé rapidement. Mais on sait qu'à Bikini, l'archipel de Bikini, ou dans le Pacifique, la même chose, les Américains ont fait sauter. Ils ont tous arrêté, ils ont été obligés d'arrêter. De la même manière qu'ils ont été arrêtés d'aller sur la Lune. Parce que ces êtres qui vivent à l'intérieur de la Terre se servent de la Lune comme poste d'observation pour entrer en voyage vers l'univers par la face cachée de la Lune.
Est-ce que tu as vu cet article qu'on a posté, Richard, qui annonce qu'un ex de la NASA dit justement qu'il y a des villes de l'autre côté sur la face cachée de la Lune?
Oui, je l'ai vu. Ouais. Et j'ai vu aussi que George Adamski, qu'on a traité de farfelu dans les années 50, là, qui était monté à bord d'OVNI en 51-52, et qui a été reçu par Jean 23, le pape de l'époque, le pape qui a créé la paix sur la Terre avant que les Américains et les Russes se tirent des bombes à cause du conflit à Cuba. Là. Alors ce Adamski-là a rapporté ses voyages en soucoupe volante. Entre autres, il a dit qu'en banlieue de la surface de la Terre, il y avait un endroit où il a vu comme des lucioles, des mouches à feu, des fireflies, comme il disait, par les hublots de l'OVNI. Ben, quand John Glenn a fait le tour de la Terre, c'était une des premières choses qu'il a rapportées. Il dit, je sais pas comment se fait-il, mais on est rendu dans la, au-delà de l'atmosphère. Il est comme des lucioles. C'était comme des particules ionisées, tout simplement, qui brillaient à l'extérieur de son hublot, de son Friendship 7. Et il voyait très bien ces lucioles-là, John Glenn. Mais là, ça dérangeait parce qu'il venait confirmer ce qu'Adamski avait dévoilé 10-15 ans avant. Et personne ne croyait à l'histoire d'Adamski. Hein, comment ça, des lucioles dans l'espace, ça se peut pas, ça a besoin d'air. Mm. Et plus tard, Adamski, un peu plus loin dans son voyage vers la Lune et vers la face cachée de la Lune. Et Adamski a rapporté qu'il avait été conduit sur la face cachée de la Lune où il y avait des installations. Ouais. C'est qu'au congrès qu'on a fait justement au mois de mai, j'y reviens, parce que Chris Rutkowski, ouais, il n'est pas venu. Quand je lui ai dévoilé ma Kelling Question, je demande aux ufologues dans ce congrès-là s'ils n'ont pas oublié la présence d'êtres de civilisations très, très anciennes, qui étaient très, 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 très développées. J'insiste sur le très, là, parce que il y avait des ovnis, il y avait des méthodes d'invisibilité, il y avait des méthodes de téléportation, il y avait tout ça, là, ces êtres-là. Et ils les ont toujours. Ils vivent à l'intérieur. Ils sont une population considérable. Et à un moment donné, ils vont sortir de l'intérieur. Mais c'est eux qui mènent le monde de l'intérieur. Ce qu'on appelle le maître du monde est dans les entrailles de la Terre, Shambhala, Agartha, les traditions orientales le savent très bien. Mm. Et
ça veut dire quoi, Richard? Ça veut dire qu'il y a donc une vraie organisation, une vraie société sous nos pieds, et que donc les petits gris, si je résume, hein, que l'on voit, seraient peut-être donc ces êtres intraterrestres. Et pourquoi ne viennent-ils pas plus souvent à la surface? Parce qu'ils nous redoutent, c'est ça, d'après toi?
Parce que tant qu'ils restent cachés, nous, on n'a pas l'impression qu'il faut se défendre d'eux. Mm. Et d'une part. D'autre part, tant qu'ils restent cachés, eux ne sont pas achalés. Mais ils contrôlent tous ceux qui parlent des phénomènes ovnis. Dès qu'il y a trop d'informations qui sortent de la bouche d'un ou de l'autre, ou trop d'informations, ça, je te dirais, c'est l'ancienne politique. Ça fait maintenant depuis 1947 qu'on en parle des ovnis, parce qu'ils ont été vus. Pourquoi ils ont été vus? Parce qu'ils sont venus circuler en surface de manière plus invasive, si on veut, pour essayer de voir là les silos d'ogives nucléaires. Mm. Dès qu'on en ouvre un, ils apparaissent, ils sont là. Ils viennent pas des confins de l'univers pour venir régler ça là. C'est parce qu'ils sont déjà installés ici. Là.
Ça veut dire qu'ils sont technologiquement beaucoup plus avancés que nous, parce qu'ils ont quand même des engins qu'on n'a pas nous.
Oui. On pourrait dire qu'ils ont 200 000 ans, mais c'est pas nécessaire d'aller si loin. On pourrait dire qu'ils ont 100 000 ans. Écoute, tout est proportionnel. Là. Je peux pas parler avec des chiffres de cette façon-là. Ouais. Ça veut rien dire. Ouais. Ça veut rien dire. Sauf que ce que nous, on approche lentement. Et là, on commence à parler d'hybridation. On commence à parler de contrôle génétique. Bon, ben, ces êtres-là le font. Alors, ce qu'on appelle les petits gris, là, c'est des êtres hybrides, c'est des êtres fabriqués en série. Ah. Et elles n'ont pas d'âme dans le sens de l'âme. Tu sais, je te parlais tantôt de Mathilda, là, qui est morte à 83 ans en 2007. Ouais. Elle a laissé une brique de texte qu'elle voulait qu'il soit publié seulement après sa mort à ses héritiers légaux. Et ça a été publié là, le 14 décembre 2014. Mm-hmm. Ça vient d'être publié. Ça s'appelle Alien Interview.
D'accord.
Aux éditions Lawrence Spener. Et cette dame-là dit que l'être avec lequel elle a été amenée parce qu'elle est infirmière, et curieusement, sur la base de Roswell, il n'y avait qu'elle avec qui l'être communiquait par télépathie. Mm-hmm. Alors elle dit, j'ai gardé la chose secrète toute ma vie pour conserver ma pension de militaire. Elle travaillait pour la US Air Force. Alors c'est normal, elle s'est protégée, elle voulait protéger sa vie aussi, parce qu'elle a vu qu'il y a eu plein de gens qui ont ouvert la trappe un peu trop vite après le crash de Roswell. Et elle a été amenée, elle, à interviewer. Ben, interviewer, c'est une manière de parler. C'est parce qu'elle, d'abord, elle devait s'en occuper sur le plan santé. Et elle a eu des images qui sont apparues dans sa tête, dans son cerveau. Elle entendait ce que l'être lui disait, mais pas lui dire avec des mots en anglais. C'était comme des feelings, des impressions qu'elle pouvait intellectualiser et dire, ah, il me dit telle chose. Il a soif, mettons. Mm. Il veut boire, il a la bouche sèche, il veut... Hein? Les autres disaient, comment tu sais ça? je l'ai senti. Puis il apportait de l'eau, puis il buvait un peu. Ah ben là, hein, c'est incroyable, il te parle. Mais oui, il me parle dans ma tête. Comment ça, il te parle dans ta tête? Ben, j'ai comme des images, je sens ce qu'il veut me dire. Et là, ils ont fait même venir des médiums à la base pour essayer, avec d'autres médiums, peut-être d'avoir des meilleures communications. On comprend que c'est l'être qui avait choisi cette dame-là, puis il lui a dit un jour pourquoi. Il dit, parce que toi, Mathilda, t'as pas d'arrière-pensée. T'es là pour m'aider. Les autres ont tous une arrière-pensée. Ils sont chargés par les militaires de venir me questionner. Ils sont chargés par les militaires de vérifier des choses pour que ils ont peur. Ils se demandent qui je suis, qui je représente. Cet être-là n'est pas ce qu'on pourrait appeler les êtres de l'intérieur de la Terre. Il vient de l'intérieur de la Terre,
ouais.
Mais il fait partie d'une fabrication en série.
Mais c'est quoi? C'est comme si c'était des robots, des avatars, des...
Bon, les Grecs le connaissaient déjà. Tu sais que Héphaïtos, ce qu'on appelait Vulcain là, chez les Romains.
Ouais,
là.
Ouais, ouais, ouais.
Bon, alors, le forgeron, là, Héphaïtos, c'est le dieu grec. Mm-hmm. Il vivait à l'intérieur de la terre. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il se faisait des petits automates.
Mm-hmm.
C'est-à-dire des petits personnages qui étaient fabriqués comme... parce qu'eux, à l'époque, ne pouvaient pas imaginer qu'on pouvait fabriquer de la vie puis faire des animaux. Mais oui, ces êtres-là peuvent fabriquer de la vie animale, ils peuvent en faire des êtres comme ils veulent, et ils ont fabriqué ce prototype de petits êtres avec des grands yeux, qui ont des grands bras, des grands doigts, maigrichons, et puis peau grisâtre.
Mm.
Alors, ces êtres-là ne sont pas les dirigeants, ce sont ceux qui ont été fabriqués au besoin, comme on fabrique des automobiles. D'ailleurs, ces êtres-là considèrent l'être humain, ils nous appellent, nous, les immortal spiritual beings.
Ouais.
Des êtres de vie spirituelle immortelle.
Ouais.
Ah, c'est intéressant, okay. Parce que eux n'ont pas d'âme. Eux sont fabriqués en série comme on fabrique des automobiles.
Mais alors pourquoi, Richard, pourquoi viennent-ils de temps en temps prendre contact avec certains humains? Parce que bon nombre de personnes sur cette planète ont dit avoir été en contact avec ces petits gris, ces êtres avec ces grands yeux, etc., avec leurs longs bras, pas de très grande taille, etc. Et pourquoi certains, même terriens, disent avoir été enlevés? Pourquoi nous enlèveraient-ils?
D'ailleurs, j'ai écouté, puis je sais que vous sautez sur le sujet du phénomène OVNI très souvent,
oui.
Comme là tantôt à la rédac et vous, là, qui suit notre entretien actuellement,
Bien,
vous allez peut-être revenir sur le sujet, mais la semaine dernière, vous l'avez abordé en disant, il y en a qui disent que ces petits gris-là sont un peu comme des chiens de garde, un petit peu comme le berger,
oui.
Qui a un troupeau de moutons. Le troupeau de moutons, c'est nous autres, les humains sur la surface.
Mm.
Le berger, c'est Vulcain, c'est Héphaïtos. C'est celui qui fabrique ces petits êtres-là, qui est à l'intérieur de la Terre avec eux, et qui est dans l'aéropage du maître du monde. Et là, alors ces êtres-là sont envoyés souvent comme des chiens de garde. Ils sont envoyés pour régler des choses radicalement et de manière assez... Bon, et des enlèvements. Les enlèvements, il y a beaucoup de gens, puis j'ai fait des enquêtes, j'ai reçu sur mes émissions très souvent des gens, surtout les Américains qui sont visités par les petits gris. Hein, c'est drôle, en France, on n'en entend pas souvent parler. Il y avait Jimmy Gueux qui était monté aux barricades en disant « alerte rouge, il faut sortir les Kalachnikovs
ouais. ».
Attention, ben Jimmy, il avait fait partie de la résistance en France à la Deuxième Guerre, puis il était resté marqué sur l'idée qu'il y a l'invasion. Et l'invasion qui est venue aider les Allemands, ils sont pas venus aider technologiquement les Allemands pour que les Allemands véritablement gagnent la guerre. Ils sont venus aider les Allemands pour que les Allemands fasse la guerre,
ouais.
Détruisent l'économie du monde. Et les Américains, qui n'avaient pas été encore embrigadés par les petits gris, ils ont défendu l'Europe, puis ça a renversé la vapeur, ça a changé les choses. Il y a des jeux de coulisses, d'ailleurs, ce sont tous des jeux de coulisses en politique, tu sais comme moi, hein. Les journalistes n'apprennent jamais la vérité, ils l'apprennent des années plus tard.
Mm-hmm.
Bon. Alors,
de toute façon, quand ils l'ont, on les fait passer pour des fous, hein, je sais bien.
Ben, au début, c'est toujours ça. Ouais. C'est les rire, les ridiculiser, puis après ça, les faire passer pour des dangereux ou on les fait disparaître, carrément.
Ouais, ouais.
La madame Mathilda O'Donnell McElroy, elle a eu raison de garder toute l'information cachée.
Ouais.
Par ailleurs, j'ai eu de l'information comme Jimmy, comme d'autres. Jimmy est allé à Roswell à quelques reprises.
Ouais.
On a discuté avec des militaires sans qu'on puisse donner ni leur nom, ni rien. Puis on est obligé de prendre des précautions pour pas que ça se fasse par téléphone,
ouais,
par Skype aujourd'hui. Alors, il y a des choses importantes. Albuquerque, qui est un endroit où il y a beaucoup de médiums qui vont à Albuquerque,
ouais,
puis descendent à l'intérieur de la Terre pour être mis en contact avec des êtres intérieurs. Les êtres intérieurs, les petits gris, je le répète, pour nos amis qui s'intéressent à l'ufologie, arrêtez de penser que c'est des êtres très évolués. Là. Les petits gris, là, c'est pas des êtres très évolués. Ils n'ont pas d'âme. Ils ne font qu'être comme des robots faits en série, mais biologiques. Et ils travaillent pour une autre catégorie d'êtres qui nous ressemble.
Bon.
Mais qui nous ressemble à un certain point, oui, puis à un certain point, non. J'allais dire tantôt que quand ils font des enlèvements, la question que tu me posais,
ouais,
eh ben, c'est pas nécessairement pour faire ce que plusieurs sont venus me dire à mon émission, faire des hybridations entre leur race et notre race pour qu'il y ait un jour une possibilité de vie entre deux peuples. Tu sais, on pourrait dire, on va faire des mixages entre des Asiatiques et des Blancs, ou des Noirs et des Blancs, ou tu sais, pour avoir une mixité, oui, c'est ça, de façon à ce qu'il n'y ait pas de barrière de race, qu'on
ouais
se dise, bon,
ouais,
finalement, on arrive à une race unique, mais qu'il y a un mixage de toutes les races. C'est un beau plan, ça, c'est merveilleux, pourquoi pas. Mais il y a une autre version aussi, c'est que ces êtres-là, et les êtres de l'intérieur de la Terre, cherchent à leur donner une âme. Et pour trouver la manière d'avoir une âme, c'est d'aller chercher par la génétique, puisqu'on porte un corps biologique, mais comme tous les travaux des neurologues, des grands spécialistes, on se rend compte que ce qu'on appelle l'âme, la conscience, n'est pas dans le biologique.
Alors attention, je te coupe deux secondes, Richard.
Vas-y.
Il y avait Marc Gray ici, qui est responsable des dîners ovnis de Rouen, qui m'avait fait une émission sur le vampirisme psychique peut-être de ces extraterrestres. Est-ce que tu as envisagé peut-être que ces petits gris viendraient aussi ici de temps en temps nous observer pour nous vampiriser l'âme?
Ah, très intéressant. Tu sais, on entend parler des incubes et des succubes.
Bien sûr.
Le mot succube ou incube vient du latin cubare, qui veut dire se coucher.
Ouais.
Ça donnait d'ailleurs le mot concubine, concubine. Mais le cube, là, ça n'a rien à voir avec le bloc en trois dimensions. Là. Non, non. Les incubes, ce sont des êtres mâles qui viennent pour abuser des femmes.
Ouais.
Les succubes sont des êtres femelles qui viennent, elles, pour séduire les mâles.
Ouais.
Alors, c'est juste pour le faire marcher, il fait faire ce qu'il veut avec la carotte au bout du nez. Ça, c'est les succubes, les femelles. Donc, il s'agit déjà d'êtres spirituels qui ne viennent pas avec un corps physique matériel, mais ils viennent avec un corps qu'on dira en physique, pas physically, but in physical, en physique plutôt que physiquement. Là, il faut le comprendre, ça, c'est rentrer dans la subtilité des pouvoirs psioniques, des pouvoirs des Jedi et tout ça. D'ailleurs, tu sais, quand je parlais, il y a... La dernière rencontre, on parlait de Star Wars, puis dans la même semaine, on a entendu parler de l'arrivée prochaine du 7e épisode de La Guerre des Étoiles.
Ouais.
Bon, ben les Jedi, ils développent justement ces pouvoirs psy, ces pouvoirs psioniques. On sait que les enfants, là-bas, on les appelle les Tulku en Orient. Les Tulku sont pris juste avant l'âge de puberté, vers 7 ans, 8 ans, et on les entraîne à faire le dédoublement astral, à faire le remote viewing, comme dirait Jacques Vallée, faire la vision à distance. Et se projette, et même mieux que ça, dans des temples comme à Shaolin, en Chine, et ils font des groupes, ils se mettent en cercle. Un maître est au milieu d'eux, et ils projettent leur esprit à un endroit au centre, au-dessus de la tête du maître, et partent en voyage. Et ce que nous, on voit au-dessus du Mexique, au-dessus de nos villes, qui semblent être des balls of light, des boules de lumière, qu'on appelle des soucoupes volantes de lumière, bien souvent, ce sont des projections mentales qui sont faites par des êtres. D'ailleurs, les Foo Fighters, te souviens-tu des Foo Fighters
de la
Deuxième Guerre?
Oui, complètement.
Bon. Quand on parle du Kung Fu, le fou, là, ça peut pas dire fou perd la boule, là. Non, non, c'est un mot qui vient d'Asie. Et les Foo Fighters, c'est des chasseurs. Fighters, c'est aller à la guerre, fighter.
Ouais.
Alors, les fighters, les Foo Fighters, c'est, on l'a compris, c'est des boules de lumière qui sont envoyées par une science de l'esprit
ouais.
par des Asiatiques qui ont développé comme le Kung-Fu et tout ça, et font un amalgame et sont capables de diriger leur conscience autour des bombardiers allemands, américains, peuvent passer à travers notre matière, parce que quoi, ils sont pas matériels, ils sont comme immatériels, ils sont dans ce qu'on appelle le plan de l'éther, ouais. le plan éthérique. Ils sont comme lumineux. Mais ils sont conscients. Ils sont conscients au point d'entendre, de voir, de sentir, et pourraient même agir sur... Bon, leur énergie peut agir sur les mécanismes. On sait que Yuri Geller, qu'on a ridiculisé, encore un autre qu'on ridiculise, c'est quand ça nous dérange, on est mieux ridiculisé, comme ça on le tient loin, on n'a pas l'impression qu'il peut être menaçant. Yuri Geller a fait des spectacles, on l'a ridiculisé en disant que c'était des trucs. Oui, il y a eu des fois qu'il est obligé de truquer parce qu'on lui disait « il faut que ça marche ». Puis il ne pouvait pas que ça marche pas, bon, il truquait. Mais bien souvent, c'était sans trucage et même dans des circonstances. Tu sais, Jean-Pierre Girard que tu as reçu, c'est pas ouais. truqué quand tu tords les cuillères ou quand tu agis sur des barres d'aluminium ionisé qui ont servi à la construction du Concorde. Dans des tubes de verre, il réussit en passant la main au-dessus ouais. à tordre la barre d'aluminium ionisé sans y toucher, là, simplement en passant les mains. Bon, c'est pas... C'est de la réalité, tout ça, là. Mais qu'on multiplie ça par 10, on se rend compte que ces gens-là ont des pouvoirs considérables.
Bien sûr.
On sait que depuis 2 semaines, tu as reçu un invité que je trouve un des tops que j'ai entendu chez Bob, là. Game Over.
Ah oui, Patrick Jolon.
Ben oui. Et il dit, le FMI, le Fonds monétaire international, vient de déclarer que la première puissance mondiale économique, c'est maintenant...
La Chine.
Eh oui. Eh oui. Et la Chine... ils ne jouent pas au jeu d'échecs, eux autres. Eux autres, ils jouent au jeu de Go. C'est un vieux jeu, le jeu de Go. C'est un jeu qu'on dit qu'il a été donné aux humains par des dieux. On revient encore avec les dieux, des êtres qui viennent de l'espace, etc. Et le jeu de Go, ce n'est pas de faire comme un jeu d'échecs où il faut que tu abattes l'ennemi. Tu sais, les Américains, eux autres, ils ont appris à jouer au jeu d'échecs, hein, avec les Russes, puis tout le monde joue à ski, puis tous les autres. Ils jouent au jeu d'échecs. C'est de manger l'ennemi, de le détruire, de le faire disparaître, et de prendre le terrain en détruisant pièce par pièce. Puis mais oublie pas que dans le jeu d'échecs, il y a un roi, une reine, il y a des fous, il y a des cavaliers, puis il y a des tours. Mais les Américains viennent de perdre 2 tours hein, en 2001. Le 11 septembre 2001, ils viennent de perdre 2 tours d'un coup. La reine d'Angleterre, c'est la reine. Elle est coincée avec les dettes de tous les pays, de toutes les nations. Et maintenant, les Chinois, ils n'ont pas de dettes, eux. C'est les Américains qui ont des dettes envers les Chinois, des dettes financières. Ça, ton invité en avait bien parlé. Et le jeu de Go, c'est une autre méthode. C'est d'infiltrer. On peut, ici au Canada, adopter des petits-enfants chinois, mais pas n'importe quel, des petites filles chinoises, toujours que des petites filles, parce que les petites filles vont, en grandissant, produire des bébés qui vont être des pions, parce que le jeu de Go, il n'y a pas de différence de classe. Ce sont tous des pions. Un pion, ça vient de piétonnier, c'est celui qui marche. Pion, c'est celui qui marche. Il n'y a pas de cheval, il n'y a pas d'automobile, il marche. Mais les Chinois, c'est tous des pions, leur jeu de Go. Et ils se déplacent pour infiltrer, parce que quand tu regardes le jeu de Go, hein, qu'on appelle un Go-Ban, au lieu de jouer dans des cases, on joue sur les intersections des lignes du jeu de Go. Et au lieu de jouer sur les cases noires et blanches, là, on jouerait comme si on jouait sur les intersections des croisées. Là, tu me comprends? Là, ça devient comme des chemins. Tout ça. Alors, chacun, notre tour, on joue un pion. Toi, tu joues un pion, j'en joue un sur les croisées. Et quand je réussis à encercler un ou plusieurs de tes pions qui sont tous dans un coin, et j'ai fait le tour lentement, mais ça paraissait pas, mais à un moment donné, oups, j'en ramasse 4 ou 5, parce que t'en as 5 qui sont à l'intérieur de ceux que moi j'ai fait le tour en bloquant toutes les sorties, tous les chemins, si tu veux, et à ce moment-là, tous les tiens deviennent la couleur des miens. Et là, toi, tu préparais, sans que je m'en rende compte, un chemin autour plus vaste. Et à un moment donné, moi, j'ai pris de l'expansion, mais c'est bien beau. Toi, tu avais déjà préparé le coup plus loin, qui fait qu'en grandissant mon territoire, toi, tu avais déjà préparé l'encerclement plus grand, plus vaste. Et la partie se termine au moment où il n'y a plus de place pour vous jouer des pions. Tout le terrain est pris. Et là, on compte combien il y a de blancs, combien il y a de noirs sur le go-ban, savoir qui gagne. Alors, on se rend compte que c'est pas la même mentalité. C'est pas, d'ailleurs, on n'est pas capable d'utiliser d'ordinateur présentement pour battre les champions de jeux de Go chinois ou japonais. Alors qu'on est capable d'avoir des ordinateurs Big Blue, comme on appelait, qui était capable d'aller battre les meilleurs champions de jeux d'échecs.
Ouais, ouais.
Pour le jeu de Go, ça dépasse les capacités du cerveau humain. Seulement, celui qui joue bien, il est capable même de battre n'importe quel ordinateur, malgré tout. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de possibilités pour un ordinateur. Le temps passe vite. Bob, je me rends compte que on fait le tour seulement surface.
Ben oui.
Moi, je te propose que je revienne, puisque tu m'invites tous les mois, au mois de janvier, de continuer ce dossier du phénomène OVNI. Aujourd'hui, j'ai lancé une grosse brique dans la mare des ufologues en leur disant, arrêtez de chercher dans les confins de l'univers. Là. Il y en a qui vont dire qu'ils viennent de Zeta, de la constellation du Réticuli, 37 années-lumière de la Terre. Bon, les extraterrestres qui viennent de là, qui ont rencontré Betty Barney Hill, ils disaient que ça leur prenait 9 mois pour faire le voyage.
Mm.
Bon, alors qu'il est à 37 années-lumière de la Terre. Les autres qu'on dit venaient de Centaure, Alpha du Centaure, 4,2 années-lumière de la Terre. Bon. Après ça, tu as Aldébaran, 68 années-lumière de la Terre. Ces êtres-là qui se déplacent des confins de l'univers, parce que je ne les enlève pas du portrait du phénomène ufologique, sauf que ceux-là qui viennent en corps expéditionnaire viennent et repartent. Ceux-là ne sont pas ceux qui viennent faire les enlèvements. Ce ne sont pas les petits gris qui circulent régulièrement au-dessus de nos installations nucléaires. Ceux-là sont là pour protéger la croûte, le toit de leur maison. Et les autres qui viennent des confins de l'univers, ben ceux-là sont intéressants, dont on parlera le mois prochain. Il faut savoir que le 6 février de l'année 2015, va paraître un film sur les écrans des cinémas du monde qui s'appelle Ascension Jupiter.
Oui, bien sûr, oui, complètement.
Ah, tu m'as entendu parler.
Ben, bien sûr, oui, j'ai quelqu'un, un auditeur, une auditrice, je crois, qui m'a envoyé le lien de la bande-annonce sur Facebook aujourd'hui.
Bon, alors, sais-tu ce que la phrase clé de ce film-là?
Pas du tout.
La moisson de la Terre est maintenant prête.
Ah.
Allons faire la récolte.
D'accord.
Oui, monsieur. Oui. L'année dernière, ben, cette année 2014, c'était l'année du cheval de bois pour les Chinois, pour les Asiatiques. Bon, l'année du cheval de bois, un cheval de bois, ça te rappelle le fameux cheval qu'on a rentré, là, comment tu dis? Dans la ville de Troyes, le cheval de Troyes.
Le cheval de Troyes.
Alors, on se souvient que le cheval de Troie, c'était un cheval, une belle construction sur des roues. On l'avait rentré en hommage, hein, puis le peuple de Troie était tout fier en disant « Ah, il nous rend un hommage en nous donnant un beau cheval. » Ben, à l'intérieur, il y avait des soldats. Puis dans la nuit, quand les gens sont drogués, saoulés, là, ils descendent, puis ils vont ouvrir les portes de la ville, puis là, toute l'armée rentre, puis ils viennent de se faire prendre. La 2014, c'était l'année du cheval de bois. L'année prochaine, ça va être l'année de chèvre de bois. Alors, la chèvre, on sait qu'elle a la caractéristique de tout manger. Elle dévore tout. Hein?
Ouais.
Et la chèvre a une tendance étrange de toujours vouloir se juquer, se monter sur l'objet le plus haut à la ferme. S'il y a une automobile, elle va monter sur le toit de l'automobile. S'il y a une cabane de chien, elle va monter sur la cabane de chien. Tu sais? Alors, c'est toute une façon de voir l'ufologie. Tu m'as vu, on s'est connus assez au congrès pour se rendre compte que tout ça, c'est très sérieux. Mais il faut pas se prendre au sérieux.
Ouais.
D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle tu as vu mon Père Noël qui nettoyait le driveway à côté de la maison en pleine tempête. Oui, parce que si on commence à prendre tout ça au sérieux, et là, c'était la conséquence de l'histoire du petit chaperon rouge, arrêtons de brasser la cage pour réveiller le loup qui dort.
Mm-hmm.
Parce que quand ça va être révélé, m'a dit, Bob, toi puis moi, on ne parlera plus de ça.
Oui, c'est ça.
Puis on n'en parlera plus, même de la même façon qu'on en parlera, on va en trembler quand on va en parler. Vous avez connu la Deuxième Guerre mondiale, vous avez connu l'horreur de ce qu'on appelle les SS, puis tout ce qui vient avec. Bon, mais ils étaient alimentés, eux, par ce type d'énergie qui n'aime pas l'humanité, ces êtres qui sont à l'intérieur de la Terre. Je vais à la limite dans ce que je dis présentement, qu'on peut entendre, parce que sans ça, on va être censuré, puis peut-être j'aurai des problèmes. J'en ai déjà eu parce que j'ai donné des éléments concrets d'appréciation à des journalistes. Et à un moment donné, il y a même un type qui est venu faire un reportage sur la vie de Richard Glenn, mon épouse de l'époque, puis tout ça. Et on ne sait trop pourquoi, mais on l'a retrouvé mort quelques mois après que le reportage a été fait et diffusé. Que Dieu ait sa mémoire, mais c'est important de d'aborder ce sujet-là, ou alors on peut l'aborder d'une manière fantaisiste, ouais. Ou on peut l'aborder en se servant des mythes, des légendes, de la tradition ésotérique très ancienne, Vitriol, pour se rendre compte qu'il y a eu des messages qui étaient transmis à des initiés. Et ça, c'est à chacun de soi de faire son cheminement. Je vous répète, Bob, si tu me permets de répéter aux gens, d'aller voir dans le club, pas dans le club créé, dans le complément surprenant sur mon site. Ou toi-même, tu mettras sur ton site, les gens ils cliqueront sur le podcast qui vient avec l'entrevue qu'on fait présentement, ouais. Pour leur permettre d'aller voir les compléments. Parce qu'avec les compléments que Gilles Surprenant place dans le complément surprenant numéro 50, ça va s'appeler comme ça parce qu'on est à la 50e semaine de l'année, ça va permettre au grand public de réaliser toute l'information qui vient compléter ce que je viens de te dire, ce qu'on vient de se dire ensemble. Mm-hmm. C'est bien plus important, je dirais pas grave ou dramatique, ce sera le jour où ils vont sortir, où le loup, quand on va lui avoir demandé, mais pourquoi de si grandes dents? Ben, tu sais, pourquoi ils vont faire des enlèvements? Parce qu'ils font des enlèvements pour essayer de piéger dans notre ADN ce qu'on pourrait appeler l'âme, mm-hmm. pour pouvoir transmettre des âmes ou pouvoir contrôler des âmes. Et on disait bien dans l'Église autrefois, fais attention de ne pas vendre ton âme au diable.
Bien sûr.
L'âme est quelque chose qui est très mal connu par la science. On parle de la conscience. On est loin de l'âme encore, là, parce que la conscience est le pilote de l'âme. Mais un jour, on avancera. Écoute, tout ça, c'est de l'ésotérisme, j'allais dire, de l'ésotérisme des profondeurs. Mais on a fait aujourd'hui une rencontre pour parler d'ufologie, mais de méta-ufologie 101. Mmh. Et en janvier, on fera méta-ufologie 102.
D'accord.
Parce que je ne vais pas laisser les gens, pour l'époque de Noël, leur rappeler que le Père Noël... Il est avec, n'oublions pas, la belle fée des étoiles, mm-hmm. avec sa baguette magique.
Bon.
Alors, il y a quelque chose encore de vrai derrière tous ces mythes pour nous amener de l'enseignement à nous à le prendre à un deuxième degré, à un troisième degré, comme on dirait en première année, les enfants croient au Père Noël. Deuxième année, ils commencent à douter. Et moi, j'ai enseigné pendant une vingtaine d'années dans les écoles publiques pour me rendre compte que, puis je me le faisais dire par d'autres professeurs, des anciens, qui disaient, oui, en troisième année, les enfants qui arrivent à l'âge de 9 ans, 10 ans, fini le Père Noël. Ils ne sont plus des bébés. Avant, là, ils sont encore bébés, ils croient au Père Noël, puis une histoire comme ça. Alors, le phénomène OVNI, on croit encore que c'est comme des Star Trek, puis tout ça. Merveilleux qu'on y croit. Ça fait amusant. Mais un jour, on va réaliser que c'est beaucoup plus sérieux que ça, la situation. Et que le phénomène OVNI a des conséquences dans notre monde économique.
Eh oui. C'est d'ailleurs pour ça, ouais, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai reçu cette semaine Jean-Gabriel Grélet, avec lequel nous sommes revenus sur le dernier livre de Paul Elliard, qui a fait un parallèle entre les ovnis extraterrestres et la crise mondiale. Hein.
Ben voilà, mon cher, tu le vois, hein? Puis moi, je vais te rappeler un film, pas un film, mais je te parle d'un livre qui est tout nouveau, qui vient de sortir, qui va faire le pont avec les invités que tu as reçus, que tu as fait entendre, et puis on avait grand plaisir à les écouter, la Transylvanian Sunrise. Mm-hmm. Le Transylvanie, c'est où? C'est en Roumanie.
Bien sûr, c'est la patrie de Dracula.
Oui, tu connais bien, oui. Oui. Alors là, tu trouves à avoir dans ce livre-là le Sunrise, Transylvanian Sunrise, ça veut dire le réveil de la Transylvanie, le soleil qui lève, là, le Sunrise, là, c'est le lever du soleil en Transylvanie. Pourquoi? Parce que par les satellites américains, ils ont découvert qu'effectivement, sous les montagnes là-bas, les Roumains, puis plus tard on a appelé des Romains, qui venaient de Roumanie, ceux qui sont devenus les Romains, ces Roumains-là étaient en collusion avec une catégorie d'êtres, et on a découvert dans une des montagnes trois tunnels qui conduisent. Il y avait une grande chambre dans laquelle il y avait 12 tables qui étaient gravées sur la pierre, l'histoire de l'univers, l'histoire du monde, de la Terre. Et il y avait trois tunnels, un qui mène directement au Pérou, un qui mène directement sous la grande pyramide d'Égypte, et l'autre qui mène à l'intérieur de la Terre. Mm-hmm. Alors, on approche de quelque chose, lâche pas le morceau, Bob, la Terre est creuse, il y a des civilisations intérieures qui nous connaissent très très bien, qui préparent un gros coup d'éclat quand on va avoir réveillé le loup. Mais je veux que tout le monde garde dans la mémoire que le père du petit chaperon rouge, c'est le bûcheron, c'est lui qui va venir ouvrir le ventre et va, Il va libérer les abductés, il va libérer l'humanité de l'emprise de ce que le Christ appelait l'univers de Satan, de ses œuvres et de ses pompes. Celui qui a été chassé dans les entrailles de la terre, on va en être libéré au retour de ce qu'on appelle le bûcheron dans le petit chaperon rouge, qu'on appelle, nous, le Messie, le Matreya, etc. On va tous parler de ça. Au mois de janvier, on va voir tout le côté très positif de tout ça.
Eh bien, génial, Richard. Merci mille fois d'avoir fini cette année, hein, pour toi et pour BTLV. Donc, on clôture cette collaboration en 2014. Comme tu le dis, on en reprendra une nouvelle en 2015. C'est ce que j'ai demandé au Père Noël. Au Père Richard Glenn Noël. Voilà, c'est comme ça que je t'ai appelé. Donc, voilà. En tout cas, je suis ravi, bien sûr, de te savoir parmi nous dans cette équipe. Bien sûr, le complément surprenant, vous pouvez le trouver avec le podcast de cette émission ou alors sur le site Ésotérisme Expérimental. Merci mon Richard, je te souhaite de belles fêtes de fin d'année. Embrasse tout le monde, Geneviève et Gilles Surprenant et toute ton équipe, et puis à très vite.
Et moi je te souhaite le paradis avant la fin de tes jours, toi et toute ton équipe.
Allez, bisous.
Le mystère et l'inexpliqué sont ses terrains de jeu depuis 40 ans. Tous les mois, Richard Glenn est sur BTLV.